Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Présidentiel au Cameroun, l'examen des recours introduits auprès du Conseil constitutionnel par les candidats de l'opposition qui réclament l'annulation totale ou partielle du scrutin présidentiel du 7 octobre s'achève en principe ce mercredi. Au cours de la première journée d'audience hier, toutes les requêtes examinées ont été rejetées par les 11 membres du tribunal. Plus de détails avec le correspondant de VOA Africa Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
Requête irrécevable. La phrase a été répétée à 16 reprises par le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana au cours de l'audience qui s'est déroulée sous haute sécurité à Yaoundé. Requête irrécevable de l'opposant Maurice Kamto qui a recusé 5 membres du Conseil constitutionnel pour délit d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis du RDPC, le parti du président Paul Biya. Les 5 sont encore membres du comité central ou du bureau politique du RDPC ont soutenu la dizaine d'avocats réunis par l'opposant Maurice Kamto. Après 2 heures de plaidoirie, la décision susceptible d'aucun recours est tombée. Requête irrécevable. Aucun commentaire de Maurice Kamto, visiblement déçu après cette décision. La suite de l'audience a donné lieu au même classique. Toutes les requêtes ont été jugées irrécevables, soit pour non-conformité au code électoral, dépôt hors délai, disqualification du requérant ou encore absence des preuves de dénonciation d'irrégularité lors du scrutin. Ce mercredi, 2 derniers recours vont être examinés. 1 du parti de Maurice Kamto, demandant l'annulation du scrutin présidentiel dans 7 régions sur 10, parmi lesquelles les 2 zones anglophones, et un autre recours du candidat du Social Democratic Front, Joshua Oshi. Sauf surprise de dernière minute, le Conseil constitutionnel devrait valider l'élection présidentielle du 7 octobre dernier et publier les résultats officiels au plus tard, le 22 octobre prochain. Yaoundé, Emmanuel Jiruntap, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, envisage d'engager des négociations avec les rebelles ougandais des ADF qui sèment la terreur dans la province du Nord Kivu dans l'est du pays. C'est ce qu'a déclaré mardi la chef de la mission onusienne, Leila Zerougui. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
C'est ma conviction, je ne crois pas qu'un groupe qui est dans ce pays depuis les années 80, on peut le vaincre uniquement par les armes, a indiqué Leila Zerougui lors d'une conférence de presse. Selon elle, les négociations peuvent se faire dans la mesure où l'on dit déposer les armes. La responsable de la MONUSCO dit ne pas prôner l'impunité, elle entend plutôt explorer tous les moyens visant à mettre fin à la souffrance des populations. Les ADF sont historiquement des rebelles ougandais musulmans, hostiles au président Yoweri Museveni, installé dans l'est de la RDC. Ils sont tenus responsables depuis octobre 2014 de la tuerie de centaines de civils, dont 235 rien que depuis début 2018, et de 15 casques bleus dans la région de Beni. Ces hommes armés occupent des zones entières, font beaucoup de mal à l'armée congolaise et menacent les paisibles citoyens. Ils ont récemment enlevé un casque bleu et personne ne sait s'il est vivant ou mort.
Processus de paix en République centrafricaine. La Russie a récemment réuni les représentants des groupes armés centrafricains au Soudan dans le cadre des efforts de réconciliation en RCA. Cette démarche de Moscou est-elle menée en contradiction ou bien à titre complémentaire de la feuille de route de l'Union africaine pour ramener la paix en Centrafrique? Idriss Fall a posé la question à la ministre centrafricaine de la Défense, Noël Koyara.
Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu une rencontre où le ministre des Affaires étrangères soudanais est venu avec l'Union africaine, tous les partenaires. Et le Soudan a expliqué le but de cette initiative qui a permis justement de regrouper tous les groupes armés pour qu'ils signent une déclaration. Mais cette déclaration doit être prise en compte dans le cadre de la feuille de route de l'Union africaine, qui est l'unique cadre que le gouvernement est en train d'y travailler. Et le Soudan a expliqué qu'ils ont effectivement sollicité l'appui logistique de la Russie pour faire ce travail. Et l'Union africaine aussi, maintenant, a demandé que tous les intervenants qui sont intéressés par la crise centrafricaine se retrouvent dans un panel des observateurs qui pourraient accompagner cette crise.
La présence russe en Centrafrique, combien?
Il y en a qui nous disent qu'il y a 4 000 Russes au niveau de Bangui. Alors, comme vous savez, Bangui est une petite ville. S'il y a 4000 Russes au niveau de Bangui, automatiquement, c'est facile de le reconnaître. Vous savez aussi que la présence de la Russie en Centrafrique date de 1963. Donc, c'est une ambassade qui est établie là-bas chez nous. C'est un partenaire. Depuis ce temps, on a travaillé avec tous nos partenaires.
Il y a 3 journalistes russes qui ont été tués. Ils étaient venus faire un documentaire sur une société qui s'appelle Wagner.
Ce problème de Russes qui étaient tués, nous déplorons cela parce que c'est des humains qui ont perdu leur vie. Mais sachez que notre pays applique, comme tous les pays d'ailleurs, qui se respectent, la liberté de presse. Tout homme de médias qui arrive chez nous pour couvrir n'importe quel événement, ils sont toujours les bienvenus. Mais il faut respecter les procédures. Ça nous permet aussi de savoir qu'ils sont sur nos territoires et d'assurer aussi leur sécurité. Ces 3 personnes russes qui sont arrivées n'ont pas eu l'accréditation au niveau du ministère de la Communication. Ils ne se sont pas présentés. Nous ne savons pas comment ils ont organisé leur séjour. Mais nous avons appris qu'ils étaient vers la région de Dekwa et ils ont connu la mort par des hommes armés. Dans une telle situation, notre première réaction, c'est de voir avec l'ambassade de la Russie si ces personnes qui ont été tuées étaient reconnues par l'ambassade. Au début, c'était difficile de connaître leur nationalité. Et après les informations, on avait dit que c'était 3 Russes ou 2 Russes sur les 3, je sais pas. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés de connaître aussi l'évolution des enquêtes qui sont ouvertes et par le gouvernement et aussi par la Russie sur ce qui s'est passé. Et nous aimerions savoir les vraies causes de ces assassinats pour que nous puissions en tirer la leçon.
Marie-Noëlle Koyara, ministre centrafricaine de la Défense.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En Guinée, il a fallu près de 8 mois après les élections locales pour installer les conseils communaux, mais le processus progresse lentement malgré un accord politique signé le 8 août. L'opposition, qui parle de mauvaise foi du pouvoir, a appelé à des journées villes mortes qui ont conduit à des manifestations violentes à Conakry. Un jeune a été tué par balle mardi dans la banlieue de la capitale de Conakry. Notre correspondant Zakaria Camara fait le point.
L'opposition et la mouvance avaient accepté de régler les contentieux par un consensus. Mais l'installation des élus locaux, qui a démarré il y a seulement quelques jours, ne fait pas que des heureux. Les responsables de l'opposition guinéenne accusent leurs adversaires politiques de trahison, de violation de l'accord. L'installation se fait au compte-gouttes et l'opposition, qui a perdu certaines communes qui devaient lui revenir selon sa propre lecture de l'accord du 8 août, crie à la corruption et à l'achat de conscience. Des faits suffisants pour appeler à des journées villes mortes lundi et mardi. Des perturbations ont été signalées sur l'axe Le Prince. Plusieurs sources parlent de la mort d'un jeune qui aurait été touché par balle. Les forces de l'ordre étaient visibles dans cette partie de la capitale pour empêcher les jeunes manifestants de mettre des barricades ou encore de brûler les pneus. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
En Guinée-Bissau voisine, le pays a été paralysé hier par une grève déclenchée par la Fédération nationale des associations de transporteurs routiers qui regroupe les taxis collectifs et individuels ainsi que les camions. Les détails avec Bagassi Koura.
VOA Afrique en direct de Washington.
Nous passons maintenant à la Guinée-Bissau.
Tout le pays est paralysé, a déclaré à la presse Mamadou Konté, le président de la fédération syndicale, affirmant qu'à l'intérieur du pays, le mot d'ordre a été scrupuleusement respecté. À Bissau, la capitale, les grandes artères étaient désertes. Seuls les véhicules privés roulaient sur des routes pratiquement vides. Des écoles privées ont demandé à leurs élèves de rester à la maison, alors que les établissements d'enseignement public sont touchés depuis le début du mois par une grève des enseignants. Dans beaucoup de services de l'administration, les fonctionnaires ne se sont pas rendus au travail. Les grévistes dénoncent les nombreux rackets de policiers et réclament une définition claire des rôles entre la police, la garde nationale et les agents de la direction des transports terrestres. Ils protestent également contre l'augmentation des taxes et le mauvais état des routes.
Et pour terminer, au Niger, 45 personnes sont mortes dans des inondations depuis le début de la saison des pluies, selon un bilan de l'ONU. Il y a eu également plus de 208 000 sinistrés. C'est ce qu'affirme le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Niamey, citant des statistiques du ministère nigérien de l'action humanitaire et de gestion des catastrophes. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.